Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'artiste L'Atlas, dont j'aime beaucoup le travail, donc ça c'est plutôt cool. Bonjour Julien.
Salut.
Bienvenue dans Terrain Vague. Je profite en fait du passage de L'Atlas dans l'atelier de Franck Noto, en résidence pendant une semaine, à l'occasion d'une exposition dont tu vas nous parler. Pour faire ce nouvel épisode avec toi. Justement, avant d'aborder un petit peu ton parcours, ta carrière, qu'est-ce que tu fais dans cette résidence? Qu'est-ce que tu es venu faire ici?
Ben, je suis venu voir Franck Noto.
Ouais.
Parce qu'on est en train de réaliser une exposition à quatre mains pour Add Down, qui va avoir lieu le 12 février 2026. Mm-hmm. Et d'habitude, on avait déjà fait ça une fois, et d'habitude, on travaillait chacun dans notre atelier.
Ouais.
Et on s'envoyait les pièces et on bossait chacun de notre côté, quoi. Et c'est vrai que là, vu son nouvel atelier, et puis c'est quand même plus pratique, on échange plus, on peut aller plus loin dans les techniques en bossant ensemble qu'en bossant chacun de notre côté.
Okay. Quoi, voilà. C'est ce que vous aviez fait pour l'expo chez Arcane, du coup, vous étiez envoyé les œuvres.
Tout à fait, lui avait fait la première passe, tout son travail d'abord, et ensuite il nous avait envoyé, moi j'avais. Voilà, mais là, ça permet, par exemple, c'est comme un jeu où quelqu'un commence et l'autre finit. Mais là, le fait d'être ensemble, ça fait que lui peut aussi faire une troisième couche. Par exemple, sur les petites qui sont là, d'habitude, ce serait moi qui les aurais peintes juste à la bombe en aplat. Ouais. Et là, c'est lui qui revient avec ses dégradés en dernier. Okay. Donc voilà, c'est un cadavre exquis.
Ouais.
Mais voilà, c'est bien parce que on peut, soit c'est lui qui commence, soit c'est moi. Mais le fait d'être ensemble, ça a plus de souplesse pour le processus de création. Quoi.
Et ça vous permet d'explorer aussi d'autres...
Oui, on est en train. On n'avait pas fait l'autre fois de ce système de transparence, ni le système que ce soit lui qui peigne avec ses dégradés à l'intérieur de la lettre. Mm-hmm. Bon, voilà, à chaque fois, on explore une petite nouvelle série.
Bon, du coup, j'en profite pour donner rendez-vous aux gens qui nous écoutent à la galerie Add Down, qui est rue du Plan de l'Olivier, si je ne me trompe pas, en plein centre-ville de Montpellier, pour voir l'expo. Du coup, comme j'ai l'habitude de faire avec les artistes que je reçois, j'aimerais bien en savoir plus sur ton parcours, comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Bon, j'ai jeté un petit coup d'œil à ta biographie, mais si tu peux nous dire, est-ce que, comme beaucoup d'artistes de ce milieu, tu viens toi aussi du graffiti?
Oui.
Et comment tu as fait la transition vers ce que tu fais aujourd'hui?
Oui, je viens du graffiti, mais même un peu plus en amont, dans mon histoire, avant même la rencontre avec le graffiti. Mon grand-père paternel, qui lui était libraire et éditeur de livres d'art, son meilleur ami, c'était Jean Cortot. Et Jean Cortot, c'est un des premiers peintres à avoir intégré la lettre dans la peinture.
Okay.
Si bien quand j'étais petit et que j'allais chez lui dans sa maison, c'était rempli de Cortot. Et il y avait déjà un peu... voilà, cette sorte de proto-écriture, c'était pas tout à fait lisible, mais un peu dans la continuité de l'écriture automatique ou du lettrisme, des gens comme Henri Michaud ou de Gotex, enfin moins de Gotex. Mais voilà, donc déjà petit, j'avais été impressionné par ces toiles-là.
Okay.
Et puis, évidemment, donc moi je suis né en 78, donc quand j'avais 12-13 ans, c'était le début des années 90, donc l'arrivée du hip-hop français, le début du hip-hop français à Paris, enfin en France, où c'était vraiment l'année où IAM, NTM et Solar ont sorti leur premier album, donc en 91. Et là, j'avais 13 ans, et donc c'était vraiment l'explosion du graffiti à Paris, quoi, tu vois. Voilà. Et il y avait cette continuité, ce que je retrouvais, quoi, ce
travail de la lettre.
Le travail de la lettre et même du signe, quoi, parce qu'évidemment, nous, il y a ce truc de la lettre, du lisible. Mais comme vous avez pu voir dans mon boulot, maintenant, ça devient illisible, donc c'est entre la lettre et le signe, quoi, voilà, donc... ces choses-là m'avaient déjà imprégné inconsciemment par ce que je voyais dans ma famille, chez mon grand-père plus spécifiquement. Et ensuite, de retrouver ça dans la rue, Voilà, après ta question, c'est comment
Oui, comment tu as opéré ouais, voilà, comment à un moment donné t'es passé de la pratique de graffiti à ben finalement à faire ce que tu fais aujourd'hui, mais en passant, j'imagine, par peut-être une transition déjà sur mur de manière vandale ou pas, j'en sais rien, et la pratique en atelier qui aujourd'hui est très prégnante.
Ouais, ouais. Alors bah c'est vrai que moi dans les années 90, bon, pour être tout à fait sincère, j'étais mauvais en dessin pur, pas très bon coloriste. Donc très vite, c'est la calligraphie pure, quoi, le geste pur qui m'a intéressé, vraiment, notamment spécifiquement le noir et blanc. Mm-hmm. Et donc voilà, mais très vite, j'ai dû m'intéresser. C'est vrai que nous, on était déjà la deuxième fournée, j'ai envie de dire, du graffiti. Il y avait déjà John Bandeau, enfin, tous ceux qui avaient déjà 15 ans de plus que nous, qui étaient déjà des légendes à Paris. Donc, on arrivait, c'était un peu dur de pouvoir rivaliser avec ces mecs-là qui étaient un peu nos légendes vivantes. Mais, mais qui nous avaient légué cette énergie.
Qui avait ouvert la porte, quoi.
Qui avait ouvert la porte, déroulé le tapis rouge. Non, mais je veux dire, bon, c'est vrai que nous, on n'a pas eu ce truc de la old school, de devoir faire le bélier, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Mais tout de suite, fallait trouver aussi des moyens, des styles, des discours qui étaient différents, puisque sinon, on allait un peu répéter ce que disait
le grand frère. Oui, refaire la même chose, voilà. Ouais, bien sûr.
Et moi, très vite, je me suis intéressé à la calligraphie pure. Voilà, à la typographie latine, et puis à la calligraphie arabe, et puis calligraphie orientale. Et très vite, j'ai pris des cours, au début à Paris, au comptoir des écritures avec Hassan Massoudi. Et après, je faisais mes études à Toulouse, 98-99, d'histoire de l'art et d'archéologie. Et au bout de la deuxième année, bon, j'ai arrêté mes études, mais là, je suis parti au Maroc rencontrer un calligraphe avec qui, voilà, qui lui m'a vraiment formé de manière à la calligraphie traditionnelle. Et ensuite, l'année d'après, je suis parti au Caire rencontrer un calligraphe qui lui travaillait plus sur la calligraphie arabe géométrique, voilà, qui s'appelle Mounir Al-Shahalani, qui est un calligraphe et artiste connu aujourd'hui. Et voilà, c'est en m'imprégnant de ça. Bon, après, je suis parti en Syrie, puis ensuite au Japon et en Chine. Pendant 7 ans, je partais chaque année 3 à 6 mois.
Tu as fait le tour du monde en calligraphie, quoi.
Ouais, mais avec des allers-retours. Ouais, c'était pas d'un seul coup, quoi. Je dirais, c'est en l'espace de 7 ans. Je partais chaque année dans un pays. Je restais de 3 à 6 mois. Et bon, à la fois en voyageant, dans un mode de découvrir le monde, puisque l'Atlas, c'était aussi l'amour des cartes, etc. Donc, il y avait s'imprégner de différentes cultures, de différentes zones du monde, mais à chaque fois focus quand même sur la calligraphie, sur la lettre, sur le signe, voilà. Et puis à partir, c'est en 2001 que j'ai fait mes premières toiles, où là j'ai commencé à synthétiser tout ça dans ma tête et à ressortir voilà ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une écriture atlasique, on peut dire entre guillemets, mais dans le sens universel, c'est-à-dire que je venais puiser donc tous les codes de la calligraphie orientale pour les réinjecter dans la typographie occidentale, d'où ce truc de l'Atlas, quoi, d'une sorte d'unité, quoi, d'espéranto calligraphique. Voilà, ça c'était un peu le concept de base. Et après, évidemment, avec cet héritage du graffiti, d'utiliser son nom comme matière première à une œuvre.
Oui, parce que finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on, on habitue notre œil, est-ce qu'on peut retrouver les lettres, l'atlas dans tes toiles, en fait?
Ouais, on peut toujours, mais maintenant c'est tellement étiré que même moi-même j'ai du mal à les retrouver parfois. Non, j'exagère, mais voilà, aujourd'hui c'est de toucher l'illisibilité, mais c'est vrai que j'arrive pas à créer de l'abstraction géométrique pure, ayant une formation en fait de calligraphe, typographe. C'est... Donc je viens de la lettre, donc j'ai besoin de la lettre, même si je l'amène jusqu'à son illisibilité, et du coup à une sorte de quelque chose que je trouve plus universel que quelque chose qu'on peut lire.
Parce qu'en plus, du coup, là, je vois là, mais toute la calligraphie que tu as découvert là, notamment Maghreb, Moyen-Orient, etc., on est quand même esthétiquement sur des choses qui sont très rondes, en fait. Et toi, là, tu es sur quelque chose de très anguleux, puisque c'est très droit, c'est carré, quoi.
Alors après, j'ai oublié de spécifier qu'il y a un type de calligraphie arabe qui s'appelle le Kufi, K-U-F-I. Qui lui est totalement square et qui a été conçu spécialement pour rentrer dans l'architecture. Donc comme un art ornemental.
D'accord.
Et j'ai bloqué là-dessus pendant des années, hein, ça peut se voir. Et puis là, bon, il n'y a que ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai tout un travail aussi gestuel dans mes fonds. Donc là, c'est Franck qui joue ce rôle là-dessus, mais dans mes séries, j'ai plein de choses où il y a plein de choses gestuelles, plein de la peinture aussi calligraphie abstraite, mm-hmm. gestuelle. Et bah, ça, je l'ai emprunt plus de, quand j'étais au Japon, en Chine, mais okay. sans que ce soit la reproduction d'idéogrammes. C'est plus ce que j'ai tiré, c'est les matériaux comme le papier, comme l'encre, comme, et le fait de peindre de manière fluide. Et ça, je le superpose souvent avec, avec ces lettres qui sont, elles, beaucoup plus square.
Ok.
Voilà.
Et justement, là, tu parlais de papier, etc. Ça m'amène à des matériaux. Tu travailles sur de la toile, tu fais des murs aussi de temps en temps. Il y a des... Et je sais que j'ai vu dans un bouquin, et je pense que c'était un livre enfin, que tu as fait, des plaques en marbre
oui.
Qui étaient cassées aussi.
Oui.
Enfin, tu expérimentes aussi des médiums différents.
Oui, oui. Après, bon, c'est vrai que je dirais que je fais 80% de ma production artistique et sur toile.
Mm-hmm.
Mais j'explore plein d'autres matériaux. Et le marbre, bah, c'était un voyage que j'ai fait en Grèce, à Tinos,
okay.
où j'étais invité dans un village pour peindre des sols dans une biennale. Et j'ai rencontré un marbrier, j'ai visité des immenses carrières de marbre qui existent depuis 2000 ans. Et j'ai eu comme un flash esthétique là-bas. Et donc avec cette personne, on a choisi des blocs de marbre qu'ensuite on a tranché, ensuite on a pris des morceaux à l'intérieur, j'ai dessiné et lui les a sculptés. Et j'avais envie aussi certaines, donc je faisais comme des actes, des performances dans les vernissages où je les brisais devant les gens.
Mmh.
Un peu comme ça pour rappeler le vandalisme, mmh. et pour faire un pied de nez, parce que souvent nous on était traités de vandalisme, alors que j'ai toujours considéré que j'enrichissais le patrimoine en faisant des choses dans la rue, donc c'était une manière de parler de ça.
C'est une question de perception.
Voilà, exactement. Et à la fois, parce que, donc, comme j'ai fait archéologie, j'avais ce désir d'exploser ces marbres, ensuite de les reconstituer, comme on okay. reconstitue une pièce antique.
Okay.
Et ensuite, à l'expo d'après, je les exposais reconstitués.
Okay.
Dans l'idée un peu comme ça que la personne qui est devant sache plus si elle est devant une pièce du Louvre ou devant un truc ultra contemporain.
Voilà. Ok.
Donc c'était cette manière-là, quoi, de même mon lien avec la calligraphie, c'est ça, c'est faire des ponts avec mmh. des traditions, avec des choses anciennes, avec quelque chose d'ultra contemporain, quoi. Voilà.
Je reviens parce que tu disais, t'as fait archéo,
ouais.
du coup. Enfin, bon, il y a un truc du monde qui t'intéresse visiblement, les cultures, les civilisations,
oui.
clairement.
De manière plus anecdotique, je voulais être archéologue parce que j'étais fan de Indiana Jones quand j'étais petit, tu vois. Donc je me voyais bien avec mon ça fouet, va. Mon chapeau et puis toutes okay. les femmes même, ça je trouvais ça super. Je pense que l'archéologie, il y avait un truc avec ça. Non, je rigole, mais c'est voilà, il y avait ce besoin de connaître un peu tout ce qui s'était fait dans l'histoire de l'art.
La découverte et de l'exploration. Et
voilà, mais pour revenir vraiment sur l'histoire de la lettre, elle est enseignée à la faculté. En archéologie, c'est aussi pour ça que j'ai pris archéologie.
Okay.
Et un de mes combats de fond, enfin combat c'est un grand mot, mais c'est de faire rentrer la lettre dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture.
Ok, d'accord. Voilà.
Donc le fait d'utiliser l'art, quoi, enfin les mouvements artistiques avec la lettre, bah, c'est une manière aussi de rendre ces lettres de noblesse à l'histoire de la calligraphie.
Oui, c'est marrant parce qu'effectivement, enfin moi j'ai fait des études de lettres et de linguistique mm-hmm. et jamais on nous parle, enfin on nous a jamais parlé de la calligraphie ou de comment les alphabets sont nés ou quoi que ce soit, alors que finalement c'est quand même un peu la base de la langue, mais j'avais même pas capté que la calligraphie c'était plutôt étudié en archéo.
Ça, en tout cas, ça n'est pas enseigné en histoire de l'art.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, je voulais faire une licence d'histoire des écritures que j'ai pas faite parce que j'ai arrêté les études et je suis parti au Maroc pour apprendre la calligraphie. Ouais. Mais si je devais le faire, c'était donc c'est un UV d'archéologie, enfin c'est
ouais,
une année
ouais.
d'archéologie, quoi. C'est
okay.
histoire des écritures.
Intéressant.
Mais voilà. Et puis ensuite, parce que je voulais faire ça, j'ai dû me faire une année donc où il y avait que des UV d'histoire de l'art.
Mm-hmm.
Et bon, je savais déjà à ce moment-là que je voulais être artiste et peintre.
Okay.
J'ai rencontré John Wan quand j'avais 13 ans par
oui.
des amis communs à Paris et ça a été ma première identification extra-familiale. Moi j'ai une famille qui est, tout le monde est dans le cinéma, donc
baignais quand même dans le milieu artistique.
Voilà, et puis je prenais des photos, je filmais, enfin j'avais toute cette facilité avec l'image et avec le montage par mes parents, par mon histoire. Et en voyant John, comme en plus j'étais déjà dans ce mouvement et je suivais tout ce qui se passait, de rencontrer John assez jeune, ça m'a voilà, je me suis dit plus tard, moi aussi,
ça que je
vais être un vandale.
Oui, parce que
non, mais c'était une phrase à l'époque, moi aussi je vais être un vandale, mais
okay.
voilà, je voyais bien que lui, il avait déjà une vision en dehors du graffiti, de juste écrire son nom, faire des murs.
Ouais, ouais, bien sûr.
Où lui, il était déjà dans l'abstraction calligraphique et il a ouvert des portes, je veux dire. Et même plus tard, il a ouvert des portes de galeries et de mouvements,
ouais, ouais.
D'imposer notre mouvement dans l'histoire de l'art. Mais c'est vrai que voilà, ça a été un modèle depuis petit. Et encore aujourd'hui, on a notre atelier dans le même immeuble. Mmh. On fait plein de choses ensemble. On a déjà fait des duos comme avec Franck. Donc, bon, voilà. Ça a été une manière, une porte de sortie aussi par rapport à ma famille où il n'y avait pas de peintre et c'était une chaise vide, quoi. Donc,
T'avais envie de la combler.
Oui, voilà. Après, moi, j'ai toujours... j'ai fait aussi un peu de documentaire, j'écris, je fais des choses comme ça. Mais bon, la peinture a pris toute la place dans ma vie, quoi. Enfin, l'Atlas a mangé Jules Dedé, quoi.
Ouais. Ouais. J'allais venir, justement, à comment... Enfin, parce que, du coup, on a parlé de la calligraphie, de l'écriture, etc. Mais comment tu as démarré? Je lisais dans ta bio que c'est notamment grâce au soutien d'Agnès B.
Ouais. Alors, Agnès B, je l'ai rencontrée quand j'avais 18 ans.
OK. Mais ça s'est fait vachement jeune en fait pour toi.
Ouais, ça a démarré très vite.
Ouais.
En fait, quand j'ai eu mon bac, je suis parti au Brésil retrouver un de mes meilleurs potes qui est brésilien.
Okay.
C'est là-bas que j'ai choisi mon nom Atlas parce que son père était géographe et chez lui il n'y avait que des Atlas. Et je cherchais un nom.
Et l'Atlas.
Et l'Atlas, bah, c'est un peu le One à la française, quoi.
Okay.
Atlas One,
Atlas, ouais,
et
ouais,
même
ouais.
L'Atlas géographique.
Oui, oui, c'est l'Atlas.
Voilà, c'était une manière. Et puis, au niveau calligraphique, ça équilibre vachement d'avoir le L apostrophe. Sinon, ATLA, c'est que des lettres verticales et le S
penche
un peu à droite. Donc, c'était super pour...
Okay.
Voilà. Après, pour ceux qui connaissent le graffiti, c'est aussi une réponse à Zeus.
OK.
Qui, à l'époque, était un des meilleurs à Paris. Et l'Atlas et Zeus dans la mythologie grecque, il y a une histoire. le L apostrophe, c'était aussi par rapport au cloque qui faisait le O apostrophe. Enfin bon, voilà, il y a des raisons qui sont intègres.
Et de la composition du mot, j'imagine, ne serait-ce qu'en lettres, l'équilibre, comme tu dis, des lettres très verticales, etc., ça marchait bien.
Voilà, aussi. Et donc quand je rentre du Brésil, je me mets à taguer à Paris, vraiment avec ce style de fat cap, tu vois, évasé vers le haut, que peu de gens faisaient, sauf Zeus. Donc, okay. Il m'a beaucoup influencé quand même, et dans son style, et dans sa manière de penser, qui a été un des premiers finalement à faire ce qu'on appelle aujourd'hui du street art, quoi, à sortir du graffiti, et avoir, c'est un artiste conceptuel, carrément Zeus, mais voilà, qui avec Invader, dans 98-99, avait des pratiques dans la rue décalées avec les outils qu'on utilisait, mais voilà. Et à ce moment-là, donc, j'avais tagué par hasard sur le camion d'Agnès B. Et elle avait fait des photos, parce qu'elle est fan de graffiti depuis les années 80. Elle a des boucles comme ça, énormes de photos noir et blanc argentiques de New York, de partout. Et sa fille m'a ramené chez elle dans son bureau, parce qu'on était dans le même milieu. Sa fille connaissait Invader, qui lui avait donné mon mail. Bon, bref, je me retrouve dans son bureau et j'avais vraiment 18 ans. Quoi.
Ok.
Ou 19 ans, c'était 96.
Ouais, tout jeune.
Voilà. Et là, elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Je dis, pour l'instant... Enfin, tu vois, j'étais... Mon nom était connu, mais d'une œuvre qui n'existait pas. Enfin, j'ai fait souvent ça dans le graffiti. On fait les choses à l'envers. On se fait connaître avec quelque chose qu'on n'a pas encore fait.
Oui, oui, bien sûr.
Mais bon, ça a créé un raccourci dans le labyrinthe ou dans le chemin qu'on doit prendre normalement long pour. Et tout de suite, elle m'a dit, si t'as besoin d'aide ou tu veux faire quelque chose, tu me dis. Bon, là, je suis reparti après au Caire. Donc, et puis quand je suis revenu, elle faisait sa première exposition à la Galerie du Jour en 2001 sur le street art. Où il y avait Futura, John, Gemeos, Fafi, Invader, Zeus. Mais c'était vraiment le tout début, quoi. C'était 2001. Et moi, j'étais le plus jeune et je n'avais pas encore de production plastique, à part ce que je faisais dans la rue.
Okay.
Et c'est là que j'ai fait mes 7 premières toiles qui sont devenues mes toiles errantes que je photographie partout dans le monde. Et où elle m'a permis aussi de produire une première série de t-shirts qu'elle a édité et... qui sont sortis au Japon et ça cartonnait au Japon, donc elle m'a envoyé là-bas. Donc j'ai fait mes premières séries de photos de toiles errantes à Tokyo.
Ok.
Tout ça, j'avais 19-20 ans, tu vois.
Purée.
Donc tout de suite, c'était comme une mécène. En fait, c'était vraiment une mécène et elle m'a aussi, en dehors de choses matérielles, elle m'a donné la foi, quoi. Parce que entre ce qu'on a dans la tête, elle m'a fait sortir du milieu underground du graffiti parisien pour me mettre dans le milieu de la mode parce qu'elle était là-dedans, mais tout d'un coup, elle ouvrait aussi des portes de quelque chose de plus contemporain, de plus. Et qui aussi a validé, c'est-à-dire que les gens disent « Ah ouais, t'as bossé avec Agnès ». Donc c'est vrai que
forcément, ça
a été mon passeport au début, un peu, pour passer dans le milieu de l'art. Quoi.
Normal. Et après ça, du coup, ça a été un peu boule de neige pour toi, ou est-ce
oui, que... bah, après, la vie des artistes est toujours longue, parce qu'on ne peut pas créer une œuvre comme ça.
C'est sûr.
Voilà, là, j'ai eu une première rétrospective, mais ça a mis 25 ans, tu vois, pour pouvoir sortir 100 pièces sur, comme je te oui. disais, 3-4 000, ou vraiment qui vont symboliser ou retracer une histoire, tu vois.
Après, il faut de la carrière, quoi, pour
ouais,
avoir...
Il faut du temps.
Et ouais.
Tu ne peux pas faire une œuvre en un an.
Non,
c'est une vie, quoi. Bon, voilà, après, donc ça, c'est comme... on est engagé dedans comme des moines, tu vois ce que je veux dire. On sait que c'est la vie, ce qu'on disait tout à l'heure avec Franck, on sait qu'on peindra jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Bon, voilà. Mais parce qu'on n'a pas l'impression de bosser, parce qu'on est tellement bien que tu vois, là je me fais mal à la main.
Mais c'est pas grave, tu vas quand même.
J'aime tellement ce que je fais que je continue. Quoi, voilà. Mais le chemin après, ça a été quoi? Ça a été que j'ai eu un premier atelier à Belleville à La Forge. On est resté 7 ans avec Tank, Sunset, Babou, toute une troupe qui était notre groupe VAO, qui à la base voulait dire vandalisme artistique organisé, et qui aujourd'hui veut dire vision abstraite et optique. Donc tu vois, on était toujours déjà dans toute cette pas de figuration, d'abstraction calligraphique, d'abstraction gestuelle et optique. Bon, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, c'était vraiment l'embryon. Et cet atelier nous a permis de commencer à travailler, à vendre un petit peu. Mais ça a été assez long, jusqu'au moment où on a vraiment travaillé avec des galeries qui nous représentent et que ça devienne sérieux sur le marché, quoi. Mais bon, ouais, moi j'ai fait ma première exposition solo en 2007 à la galerie Beaubourg. Et ensuite, je suis rentré chez Magda Danis en 2012. Et puis après, plein d'autres gens, tu vois, je ne sais pas si c'est nécessaire de les citer, mais c'est vrai que c'est des rencontres humaines à chaque fois. En tout cas, je n'ai jamais envoyé un dossier par Internet, par mail pour
bosser. C'est rencontres qui créent les opportunités, quoi.
Tous les gens avec qui je bosse, ça a été des rencontres voilà, dans des vernissages ou dans Paris.
Et le groupe là dont tu parlais, VAO, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en tant que collectif?
Là, on vient de faire les 30 ans du groupe donc dans ma galerie, parce que j'ai ouvert une galerie il y a un an qui s'appelle Galerie Liminal. Donc une galerie où moi, je ne me montre pas du tout et où je montre que de l'abstraction gestuelle et optique, enfin, ou de l'abstraction optique, et spécialement en noir et blanc. Donc c'est vraiment une niche.
C'est que du noir et blanc, ouais.
Voilà, c'est vraiment une niche. Bon, après, il peut y avoir des caisses en chaîne ou du lin dans le fond ou du chrome ou des niveaux de gris.
Oui, d'accord, mais on est quand même sur du...
Sur du désaturé ou du bicolore ou tricolore max, quoi. Okay. Voilà. Vraiment pour... Justement pour parler de ça, parce que nous, on est donc tous des peintres pratiquement, mais qui avons commencé par la lettre. Donc même si on n'écrit plus, on a cette manière de remplir l'espace de typographes, de gens qui viennent du graffiti. Et on le sent dans cette manière d'approcher l'espace de manière all over, de cette notion du vide et du plein. Quand on trace quelque chose, on regarde ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que le vide est aussi une forme.
Ouais, bien sûr.
Bon, voilà toute cette école-là qui existe depuis la calligraphie chinoise jusqu'au graffiti aujourd'hui. Bon.
Ouais.
Mais cette manière de peindre, elle est vraiment typique des gens qui viennent de notre milieu. Et on le ressent, même si on ne connaît pas quelqu'un, on dit, ouais, bon, lui, on sait que...
Je vois bien avec l'étoile de Franck, notamment, effectivement, ce besoin, je ne sais pas, mais en tout cas, cette façon de remplir l'espace de manière plus ou moins saturée, dense ou aérée.
La tradition du all-over, quoi, je veux dire, même depuis Keith Haring qui faisait la même chose, ou Futura, enfin, le fait d'utiliser tout l'espace, quoi. Et donc, toute une partie des VAO sont, je dirais, il y a 25-30 artistes. Et après, il y a d'autres qui sont restés juste des taggers... dans d'autres villes, mais il y en a toute une partie donc que j'expose dans la galerie. Ce qui ne veut pas dire que la galerie est la galerie des VAO. Il y a plein de gens qui sont extérieurs aussi, mais ceux qui correspondent dans les VAO à cette idée que je veux développer. En fait, je voudrais écrire un manifeste sur l'abstraction calligraphique et en faire un mouvement dans l'histoire de l'art, parce que c'est vrai que bon, on parle du graffiti, du street art, mais nous, en fait, on se reconnaît plus là-dedans.
Non, vous êtes, mais c'est ce que je trouve qui est intéressant aussi, c'est que même ici à Restanque, les artistes qui sont résidents, je trouve que vous vous placez, quelle que soit la génération, dans une sorte de pratique hybride en fait, où tu fais pas du street art, eux ne font pas de l'art contemporain, ils font plus de graffiti ou quoi, ils sont dans cet entre-deux en fait, c'est pas de l'art contemporain, c'est plus du street art, on est un peu au milieu.
Pour parler du street art.
Il n'y a pas de qualificatif.
Le street art, finalement, c'est un mouvement fourre-tout.
C'est complètement fourre-tout.
Parce que, en fait, quoi, on ne parle pas d'esthétique, du coup, on parle d'utiliser la rue comme espace d'expression.
Complètement.
Mais du coup, dans tous les artistes qui utilisent la rue comme espace d'expression, il y a autant des muralistes figuratifs que des artistes abstraits. Donc, en fait, il y a des continuités de différents mouvements à l'intérieur du street art. Le street art, c'est une manière de faire pour moi. C'est une manière d'utiliser l'espace public comme lieu d'expression.
Ouais, c'est ça.
Point barre.
Ouais, ouais.
Mais en fait, à l'intérieur, il y a plein de courants différents.
Ouais, bien sûr.
Donc nous, on se reconnaît pas. Enfin, tu vois bien qu'entre un obé et ce que je fais.
Oui.
Voilà, bon.
Mais dans la tête des gens, le street art a vraiment une. Je pense que les gens se le représentent d'une certaine façon.
Oui.
Esthétiquement.
Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu, avec la montée du street art, qui est né quand même fin des années 90 avec l'explosion du mouvement du graffiti lié avec la rencontre d'Internet, en fait.
Ouais,
c'est ça qui s'est passé. C'est que ça a été la puissance de vue, enfin de la rue avec la puissance de vue d'Internet. Et les premiers sites étaient voilà, des sites faits par des taggers où on pouvait mettre nos premières photos et du coup, on était relié avec le monde entier. Et c'est là que ça a explosé.
Okay.
Et c'est vrai qu'est venu se greffer là-dessus beaucoup de choses plus figuratives, plus... Voilà, alors que je trouve que dans ce qui est choisi dans les foires d'art contemporain, enfin de street art aujourd'hui, toute l'abstraction est sous-représentée.
Oh,
les artistes qui viennent de ce mouvement-là et qui font de l'abstraction sont sous-représentés.
Ouais,
parce que peut-être les galeries considèrent que c'est plus simple de vendre du post-pop art, du sous-post-pop art, que quelque chose soi-disant moins accessible que l'abstraction comme on le fait.
Ouais.
Et je ne pense pas. Je pense que l'abstraction est plus universelle et voilà, il continue vraiment certains mouvements de l'histoire de l'art de manière plus juste que juste faire un Mickey ou voilà.
Oui, et c'est ce qu'on voit beaucoup en fait dans les salons d'art, effectivement, voilà. Comme tu dis, c'est du post pop art, mais les enfin c'est toujours plus facile chez les gens de comprendre quelque chose de figuratif qu'une toile abstraite où on va dire bon oui c'est beau mais quoi
Après pas de jugement ou
non
c'est
bien
juste
sûr
une histoire de goût, on peut pas avoir de jugement sur les goûts de chacun, etc.
C'est clair.
Mais l'existence de la galerie que j'ai montée, la galerie Liminal, c'était vraiment plutôt que de dire ah bah je me sens pas, je me retrouve pas dans ce qui est exposé partout et dans les galeries et dans les foires, dans le mouvement duquel je fais partie, plutôt que voir ce que j'aime pas, enfin de focus là-dessus, bah de créer un lieu où je montre et on montre
ce que tu vois,
ce
pas
qu'on aime et ce qu'on trouve qui devrait être sur le devant. Donc voilà, c'est parti de là le désir de créer cette galerie.
Et pourquoi Liminal ?
Liminal, ça signifie au seuil de la perception. Ce qui est subliminal, c'est donc ce qui est inconscient, ce qui est derrière. Et liminal, une image liminale par exemple, si tu peux la voir juste avant de créer un tableau, elle passe de l'inconscient, de tout ce que tu as imprimé dans ta vie, et au moment où elle passe dans le visible, tu vois. Donc il y a cette image qu'on appelle une image liminale.
Okay.
Ça peut être des lieux liminaux aussi. Donc la galerie, typiquement, elle est entre la rue et l'intérieur. Donc, bon, voilà. Et je l'ai créé avec ma femme Julie, qui, elle, est psychologue.
Ah.
Et liminal, c'est un terme psychologique, de psychologie à la base.
D'accord.
Mais qui peut très bien parler d'art aussi. Donc c'était un lien entre les deux.
Ok. Et l'actu de la galerie, du coup, c'est quoi ?
Bah là, l'exposition, donc ça fait un an qu'on a ouvert.
Ouais.
Là, c'était une expo
donc,
de groupe.
Les BAO,
donc, l'expo s'appelle Coalition. Et donc, c'est tous les gens qui ont déjà exposé et tous les gens qui vont exposer dans l'année qui vient. Mais il n'y a pas forcément que des BAO. Hein.
Ok.
Voilà, c'était... Mais j'ai fait un double truc. C'était une manière de faire une fête avec tous mes vieux potes. Et en même temps, parce que c'est vrai que aussi... nous, le travail est une excuse à la vie. Enfin, il n'y a pas de frontière entre notre vie et le travail.
Bien sûr.
Donc, et comme chacun aujourd'hui, bah, on n'a plus 20 ans, on va plutôt avoir 50 piges, on a tous des enfants, une vie, une carrière. Donc, les gens se voient moins.
Mm-hmm.
Et chacun est dans son atelier ou dans sa tour de verre, un peu dans sa réussite ou dans son échec, peu importe. Mais c'est vrai que les gens s'isolent quand en vieillissant. Et la galerie, c'était aussi ça. C'était à la fois
créer
ce manifeste et ce mouvement... et ce courant artistique que j'appelle l'abstraction calligraphique, et aussi recréer une émulsion de fédérer des gens ensemble, et des vieux potes, et à la fois des gens dont j'admire le travail, et que du coup je peux inviter à venir collaborer avec nous, ou exposer en solo. Et voilà, et puis se décentrer de soi-même aussi, c'est vrai que bah, ça fait 25 ans que j'arrête pas et que je cartonne. Mais l'envers, le revers de la médaille du succès, c'est ça, c'est de se nourrir que de soi-même. Et donc je passe des heures, des années entières dans mon atelier,
face à toi-même,
à voir que des Latlas. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je frise l'obsession et la folie, quoi. Non mais c'est vrai.
T'as besoin de voir autre chose, bah oui forcément.
Donc voilà, c'est une manière un peu de contrebalancer, de retrouver un peu ce qu'on avait à nos 20 ans. Ou d'abord c'est une première fois. C'est vrai qu'il y a de l'adrénaline à ouvrir un nouveau lieu, à pas savoir où on met les pieds.
C'est clair, bah c'est un challenge.
Voilà, à travailler avec d'autres gens. Voilà, c'est comme une première fois, quoi. Donc c'est un peu peu de revivre ce qu'on vit dans notre jeunesse, ce qu'on a vécu dans notre jeunesse, dans toutes les, dans l'adrénaline des premières fois. Mmh. Et puis voilà, créer quelque chose au quotidien et tous les ans dans ma vie, une pratique qui n'est pas centrée que sur moi, quoi. Voilà.
Parce que tu trouves que toi, dans ta... il nous reste une minute en plus, mais je vais poser une question qui, à mon avis, dépassera. Tu penses que toi, dans ta pratique artistique, tu as plus de première fois ?
Si, dans l'esthétique. Aujourd'hui, on a fait une première fois encore avec Franck sur des choses, voilà. Mais on a moins peur qu'avant, quoi.
Ouais.
On a plus peur.
Bah, c'est plus maîtrisé, on va dire, quoi.
Alors que quand t'exposes des gens, d'autres gens que toi, là, t'as peur. Parce qu'en fait, tu t'engages pour eux.
Et oui.
Tu
dois un résultat quelque part.
C'est un autre challenge. Limite, je fais les choses encore mieux pour eux que pour moi.
Forcément.
Donc, c'est un vrai challenge.
Et ben, c'est sur cette note qu'on va finir, puisqu'on arrive déjà à la demi-heure. Merci beaucoup,
Jules,
pour cette interview. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Terrain Vague.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah, regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphie, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan, tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.